SBS French. Mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment, en ligne.
Je rejoins l'écrivain et journaliste Olivier Weber qui est à l'Alliance française de Canberra. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Olivier, vous êtes en Australie pour une série de conférences. De quoi vous nous parlez?
Oui, c'est une série de conférences par rapport à mes livres et à mes voyages, donc en tant qu'écrivain et auparavant en tant que reporter de guerre. Donc c'est principalement pour parler de ce qui se passe dans le monde, avec les différents challenges, les différents défis, mais aussi par rapport à la France, par rapport aux enjeux, et puis troisièmement aussi par rapport à ce que peut la littérature, ce que peut le roman également, pour nous permettre non seulement de rêver, mais d'imaginer, de réenchanter le réel, et puis finalement un petit peu de l'expliquer.
Et vous avez une carrière qui est fascinante. Vous avez couvert des conflits partout dans le monde, en Irak, au Sri Lanka, au Kosovo, entre autres. Pour vous, quels sont le ou les moments les plus significatifs de votre carrière?
Je pense que c'est d'avoir été au contact, non pas des chefs de guerre, des guérillas, des armées, mais au-delà des lignes de feu, au-delà des lignes de front et des tranchées, d'avoir été en contact et de l'être toujours d'ailleurs avec des populations civiles, parce que c'est incroyable dans les zones de conflit et les zones de guerre en général, comment les populations arrivent, pour le meilleur et pour le pire, à survivre. Je dis pour le meilleur parce que, bon, évidemment, il faut continuer à vivre, à se nourrir, à nourrir des enfants, dans des zones desquelles on ne peut pas échapper. Et puis deuxièmement, pour le pire, parce qu'évidemment, les principales victimes des conflits maintenant, ce sont des civils. On a calculé que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, depuis 1945, tenez-vous bien, 95% des victimes des conflits sont des civils, donc on tue de moins en moins des militaires, et les armées ont tendance plutôt à tuer des civils. Donc voilà, je suis toujours assez ému de ça, alors même si maintenant j'écris des romans principalement. Mais en tout cas, on est marqué à vie par ce qu'on voit sur le terrain, évidemment, depuis l'Afghanistan à l'Érythrée, depuis l'Irak jusqu'au territoire palestinien, etc., etc.
Vous parlez de vos livres, justement, votre plus récent livre est sorti cette année, ça s'appelle « Frontières », ça traite de quoi?
Oui, alors c'est après avoir écrit un roman qui s'appelait L'Enchantement du Monde, qui est un roman sur une histoire vraie en Méditerranée, sur l'histoire d'un peintre vénitien très connu qui s'appelait Bellini au XVe siècle, qui décide d'aller à la cour de l'empereur ottoman. Eh bien, je me suis dit, bon, voilà, ça me démangeait sûrement un petit peu, il faut retourner sur le terrain, revoir un peu le réel. Et pendant 2 ans, pratiquement, j'ai descendu une route depuis les montagnes entre l'Iran et l'Irak, donc au Moyen-Orient, jusqu'à la frontière italienne entre l'Italie et la France, à Menton, en passant par 4 continents. Pour voir vraiment ce qui se passe aux frontières. Et c'est incroyable que de voir vraiment ce qui se passe dans ces zones frontalières entre un pays A et un pays B. C'est comme si vous aviez une entité C, enfin un autre pays finalement qui serait cette zone frontalière avec des humanitaires, avec bien sûr des populations qui vivent aux frontières, qui sont quelquefois coupées en deux par ces frontières qui traversent des fleuves, des montagnes, etc., ou des zones de guerre, et puis des trafiquants, donc avec beaucoup d'hypocrisie de la part de certains États pour laisser passer évidemment le trafic d'armes, le trafic de drogue et aussi malheureusement le trafic d'êtres humains. Donc voilà, c'est un livre pas du tout géopolitique, plutôt un livre de réflexion et surtout d'observation, de portrait, on va dire, de gens sur le terrain avec eux pendant 2 ans.
On parle beaucoup de l'état du journalisme. Vous en pensez quoi? Est-ce que ça se fait encore du bon journalisme?
Oui, je crois qu'il faut apprendre à vivre avec les nouveaux médias. De toute façon, c'est souvent une chance que d'avoir les médias électroniques, que d'avoir Internet, etc. Je crois aussi bien en tant qu'émetteur, en tant que journaliste, et puis après en tant que public, en tant que citoyen des différents pays, il faut qu'on mette des conditions, c'est-à-dire qu'on enquête longuement en tant que journaliste, et en tant que citoyen, ce qu'on est tous, on est tous des lecteurs, qu'on soit exigeant et qu'on soit autocritique. Et je suis assez surpris de voir que souvent ça marche, y compris dans les pays les plus pauvres. On a un réflexe de ne pas être soumis à la propagande, de ne pas être soumis, on va dire, au courant principal, majoritaire, etc., le mainstream, comme on dit. Et je crois que c'est important. Cela dit, c'est vrai que le temps de récolte de l'information et le temps de restitution de l'information est de plus en plus raccourci. Donc voilà, il faut faire avec. C'est une chance. En même temps, il ne faut pas que ça soit, on va dire, un inconvénient. Donc le facteur temps est un luxe. Moi, j'ai eu la chance d'avoir eu du temps et de toujours avoir du temps avec moi. Mais voilà, je crois qu'il faut se battre justement pour qu'on continue à informer nos lecteurs. Et je crois que quand on écrit des livres en particulier, c'est aussi écrire quelque part, même des romans, quelquefois c'est écrire même si c'est un raccourci, c'est écrire des reportages quelquefois de 300 pages et non plus de 3 pages. Donc même si c'est de la pure fiction, ce qui n'est jamais le cas, parce que c'est toujours basé sur du vécu, sur du réel, sur nos expériences en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain, eh bien on a un peu plus de place et c'est tant mieux.
Et on est choyé de vous avoir avec nous aujourd'hui au téléphone. Je voulais en profiter pour vous parler un peu d'actualité, vous entendre sur certains sujets d'actualité. D'abord, la grosse nouvelle, l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Bon, ça a été un choc un peu pour le monde entier. Vous, qu'est-ce que vous en faites de tout ça?
Je crois que c'est une leçon aussi par rapport aux instituts de sondage. Il ne faut jamais se fier à ce qu'on croit être le plus sûr possible, même s'il était pratiquement impossible de prévoir cette victoire. En tout cas, c'est difficile avec les fondamentaux classiques d'échantillons de la population, de sondages à droite et à gauche, de savoir ce qui allait se passer. Surtout que c'est un mécanisme à part aux États-Unis avec le système des grands électeurs et du basculement dans certains États, où les petits États sont assez bien protégés, on va dire, des grands États. Mais cela peut aussi représenter ce qui arrive dans certains États, et surtout occidentaux, à savoir une vague de fond par rapport à des nationalismes ou des populismes. Et c'est le cas en Europe, y compris en Europe de l'Est, mais pas simplement. Regardez ce qui s'est passé avec le Brexit il y a quelques mois, tout le monde a été surpris également. Et je crois que justement, c'est une leçon pour savoir ce qui peut se passer. Est-ce que, d'une part, les appareils politiques ou les appareils électoraux sont-ils représentatifs encore quelque part des populations en place, et deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas aussi une montée en puissance ou une instrumentalisation, une récupération par certains petits partis ou grands partis, peu importe, de la xénophobie, d'un repli sur soi, de l'isolationnisme. Voilà, ce qui serait dangereux, c'est qu'on ait une Amérique qui soit repliée sur soi, qui ne soit plus dans le dialogue, qui soit totalement sur l'isolement, et ça, je crois que ça serait dangereux. Bon, après, il faut voir ce que ça va donner. Je pense que Donald Trump va être aussi in charge, comme on dit, donc à la tête du pays, il va être totalement responsabilisé, donc va écouter non seulement, bien sûr, ses conseillers, mais il va écouter aussi les éléments de pouvoir et de contre-pouvoir aux États-Unis.
Je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec l'actualité australienne. Là, des grands enjeux en ce moment en Australie, ce sont les réfugiés, les demandeurs d'asile qui arrivent par bateau, qui sont détenus dans des centres de détention offshore. Vous en pensez quoi?
Je crois que là aussi, ça illustre cette vague de fond qui est une sorte d'isolationnisme. Et deuxièmement, ce qui va avec souvent de peur de l'immigration, l'immigration massive. Ce qu'on a appelé, par exemple, à un moment, les boat people, qui étaient les réfugiés qui venaient du Vietnam et qui fuyaient donc le régime communiste du Vietnam. Ce sont les mêmes peurs qui existent en Australie et bien sûr dans certains pays européens où les frontières de l'Union européenne sont relativement poreuses, même très poreuses et ouvertes. Regardez ce qui se passe avec la Grèce. Donc on a une mer Méditerranée qui est très ouverte. Donc pour revenir à votre question, j'ai pas de jugement à donner là-dessus, mais c'est vrai que la politique australienne d'immigration est très difficile. Je pense qu'elle pourrait être un peu plus ouverte et regardante, en tout cas surtout sur les réfugiés politiques qui fuient les dictatures ou les pays en guerre.
Et puis finalement, en France, ce matin, on a eu les résultats du premier tour de la primaire de la droite. C'est François Fillon qui est terminé loin devant, suivi de Juppé. Pas de Sarkozy, par contre. Est-ce que vous avez été surpris?
Non, je crois que le jeu était extrêmement ouvert, surtout depuis une semaine ou deux, avec un jeu à 3 ou 4 candidats et quelquefois les petits candidats des Républicains, donc à droite, en attaquant certains, ont permis à d'autres d'émerger, dont François Fillon. Donc c'est quand même une surprise pour tout le monde, mais je crois que tout le monde a été prudent, y compris d'ailleurs depuis ces deux grandes nouvelles qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir le Brexit au printemps dernier, donc avant l'été, puis la victoire de Donald Trump. Donc ça veut dire qu'on a du mal à se baser sur les élections, sur les systèmes, classiques de représentation des élections que sont les sondages. Cela dit, ce qui était assez nouveau également, c'est le vote massif avec plus de 4 millions et demi de votants qui n'étaient pas tous d'ailleurs adhérents au parti Les Républicains, qui étaient pour beaucoup des sympathisants des partis adverses ou des socialistes, qui ont voté en masse pour empêcher ou faire barrage à tel ou tel candidat qui pouvait émerger. Donc je crois que ça a beaucoup favorisé donc François Fillon. Donc que d'avoir des candidats extérieurs, des votants extérieurs, et deuxièmement que d'avoir beaucoup de votants en général.
Pour nos auditeurs qui veulent vous entendre encore plus parler de l'état du monde, de la France aussi, vous êtes déjà passé par Perth et Canberra, mais vous serez à l'Alliance française de Sydney le 23 novembre, celle de Brisbane le 24, à Melbourne le 25 et à Auckland le 28. Tous des événements gratuits, donc il suffit seulement de réserver en ligne. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, Olivier.
Merci beaucoup et bonjour à tous les auditeurs australiens, francophones et non francophones, s'ils peuvent comprendre. Voilà, merci beaucoup. Je suis très heureux en tout cas.